Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 2 décembre, 6h30.
6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Il y en a une ce matin, se planter de bâton dans le dos des skieurs. Emmanuel Macron ne dissipe pas le brouillard concernant les sports d'hiver à Noël.
Oui. Alors que les remontées mécaniques seront à l'arrêt dans les stations pour les vacances de fin d'année, le président s'attaque maintenant à ceux qui comptent skier à l'étranger. En clair, les Français tentés par les télésièges et les pistes immaculées en Autriche, en Espagne ou en Suisse.
Nous aurons des mesures de contrôle pour dissuader nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives.
Restrictions et dissuasion, message adressé aussi aux stations françaises qui redoutent la concurrence étrangère et se préparent à une fin d'année quasi blanche. Mais ces annonces n'ont pas dissipé la colère des professionnels, des élus et des commerçants. Eric Huach.
Empêcher les Français de partir skier à l'étranger, une annonce qui tape à côté. Les pistes françaises n'en tireront aucun avantage, selon Pascal de Tirsan, directeur de Courchevel.
C'est pas parce qu'on empêcherait de faire du ski à Noël à l'étranger que ça va beaucoup arranger notre situation.
Ce que réclament surtout élus et professionnels des montagnes, c'est de la lisibilité. Le gouvernement n'interdit que la pratique du ski, les autres activités sont maintenues. Mais que pourront vraiment faire les vacanciers s'ils viennent? À cette question, pas de réponse pour le moment. Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice.
Notre problème là, actuellement, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui vont venir nous rendre visite. On ne peut pas dire, promenez-vous dans le village, ce n'est pas suffisant, ils vont vouloir aller sur les espaces enneigés. Quelle limite on peut mettre à cela? Savoir ce qu'on a le droit de faire.
Le secteur a fait une croix sur le mois de décembre, soit 25 à 30% de recettes en moins. Alors, pour éviter une catastrophe sociale, il réclame un calendrier clair pour une réouverture.
Donner une date précise. On a toute notre population qui est dans le flou le plus total. Ils sont dépendants de cette industrie du ski. On risque d'avoir des personnes qui vont se retrouver dans des situations d'extrême pauvreté. C'est un cri d'alarme.
Le gouvernement affirme prendre en compte ces inquiétudes. Le Premier ministre pourrait d'ailleurs apporter des précisions dès ce matin afin de calmer la colère des stations de ski.
Et des professionnels, des moniteurs, des maires de village qui comptent bien donner de la voix aussi parallèlement aujourd'hui en Savoie. Manifestation à Bourg-Saint-Maurice ce matin à 11h30.
Sur le front de l'épidémie, l'exécutif sort le calendrier vaccinal.
Et confirme le plan de bataille de la haute autorité de santé. Priorité aux résidents d'EHPAD et aux personnels de maisons de retraite. Première piqûre attendue fin décembre, début janvier. Une campagne de vaccination grand public sera prévue entre avril et juin sur la base du volontariat. À noter qu'après Moderna, les laboratoires Pfizer-BioNTech ont déposé à leur tour une demande d'autorisation pour leur vaccin en Europe. En attendant, l'épidémie continue de marquer le pas en France. 8000 contaminations ces dernières 24 heures, 363 décès, 145 personnes de moins en réanimation.
Le virus continue par ailleurs de flamber en Amérique latine.
À commencer par le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé dans le monde, plus de 170 000 morts. Diagnostic sans appel de l'OMS. Brasilia doit prendre la situation très, très au sérieux. Même constat au Mexique. Sur la troisième marche de ce triste podium, là-bas, le nombre de cas a doublé les deux dernières semaines de novembre. À Mexico, les hôpitaux sont saturés faute de mesures efficaces contre le virus. C'est ce que raconte Diego, un Français qui vit dans la capitale mexicaine. Il est au micro de Rémi Vallès.
La vie continue à Mexico comme si de rien n'était. Tout simplement parce que les Mexicains qui ne bénéficient pas de protection sociale, ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler. Beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en métro. Il y a des quartiers défavorisés où la densité population est énorme, où les gens vivent à 5 parfois dans un studio. Et à côté de ça, il y a une forte défiance. Les Mexicains vont pas forcément faire confiance à ce qu'on va leur dire. Et d'ailleurs, les fake news se sont énormément propagées, ne servant pas du tout la cause de la lutte contre le Covid.
Et pendant ce temps, en Europe, le Royaume-Uni lâche un peu de lest. Les magasins non essentiels, les salles de sport, les services religieux reprennent après 4 semaine de confinement. Londres privilégie désormais des restrictions régionales au cas par cas. L'horreur en Allemagne, 5 morts, dont un bébé à Trèves. Un conducteur a fauché des passants dans une zone piétonne. La police écarte la piste terroriste. Le meurtrier âgé de 51 ans était ivre et souffre de troubles psychiatriques.
6h34, la communauté internationale se mobilise pour sortir le Liban de l'impasse.
Conférence des donateurs aujourd'hui sous l'égide des Nations Unies et de la France. Une nouvelle aide d'urgence pour la reconstruction du port de Beyrouth, dévasté par une explosion en août dernier, pour aider aussi la population frappée de plein fouet par une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Emmanuel Macron compte aussi accentuer la pression pour que le pays se dote enfin d'un gouvernement pour sortir d'une crise politique majeure. Sur ce point, c'est un constat d'impuissance qui domine. Les sermons de ces derniers mois n'ont pas fait bouger les lignes, estime le spécialiste du Liban, Raphaël Gourada.
La France est mise à rude épreuve dès qu'il s'agit de déclencher des dynamiques politiques vertueuses et économiques également vertueuses au Liban. La classe politique libanaise, c'est une classe politique qui est en place depuis plus de 30 ans, qui s'est maintenue au pouvoir par le biais de parrainages internationaux, qui du coup a un véritable don, un véritable génie de la survie. Mais pour que les choses bougent, il va falloir passer à la vitesse supérieure et à commencer à citer des noms et à prendre des mesures de rétorsion, notamment dans le domaine économique et financier.
Des propos recueillis par Camille Schmitt.
Enfin, aux États-Unis, Donald Trump de plus en plus seul.
Oui, en pleine contestation des résultats de la présidentielle et à quelques jours de leur officialisation par les grands électeurs, le milliardaire se retrouve cette fois contredit par son propre ministre de la Justice. Aucune fraude ne permet de remettre en question la victoire de Joe Biden, affirme William Barr. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Et ça sonne un peu plus comme un coup de grâce pour Donald Trump et sa stratégie de mauvais perdant.
Oui, car c'est l'un des fidèles parmi les fidèles qui le lâche. Il y a eu des allégations de fraude systématique selon lesquelles des machines auraient été programmées pour fausser les résultats des élections. Nous avons enquêté et pour l'instant, nous n'avons rien trouvé. Il y a quelques semaines, Bill Barr prévenait pourtant que le vote par correspondance risquait d'entraîner des irrégularités. Et quelques jours après l'élection, il avait très rapidement autorisé les procureurs fédéraux à ouvrir des enquêtes avant même la certification des résultats par les États. Réponse de Rudy Giuliani, l'avocat de Trump, à cette déclaration. Avec tout mon respect, il n'y a pas eu le début d'une enquête du département de la justice. Les observateurs à Washington se demandent désormais si le nom de Bill Barr va s'ajouter à la liste de ceux qui ont été remerciés par Donald Trump pour avoir mis en doute ses propos.
Merci, Augustin Lefebvre.
On n'y comprend plus grand-chose à ce qui se passe aux États-Unis autour de ces affaires de fraude. C'est vraiment la confusion la plus totale. L'histoire nous dira peut-être ce qu'il faut en penser. Merci, messieurs. Je vous retrouve, en tout cas, Marc, à 7h30.
À tout à l'heure.
Pour l'heure, il est 6h30.